l'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des territoires du monde et de la solidarité internationale.
Eh bien, bonjour à tous. Nous revoici dans ces studios très accueillants de FM+, de la radio FM+, dont la différence nous rassemble, enfin c'est le slogan de cette radio. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie d'une invitée qui va vous obliger à réfléchir sur des choses, des sujets très sérieux, vous allez voir lequel. Et voilà, et j'ai grand plaisir de pouvoir échanger avec elle autour de ce sujet qui l'amène ici. Donc je vous présente Véro Dessertine. Bonjour Véronique, bonjour Véro.
Bonjour Marie-Claude.
Voilà, ravie, merci d'avoir accepté l'invitation. Et donc, si je vous ai invité, c'est que donc, nous avons une amie commune qui était dans ce studio il n'y a pas longtemps, avec qui vous partagez une discipline qui est la comédie. Vous nous expliquerez voilà, comment vous êtes arrivée à la comédie. Et c'est elle qui m'a parlé de ce que vous allez nous présenter, à savoir un petit court-métrage sur un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup, professionnellement d'abord, mais humainement aussi. Et donc, nous allons partager un peu les réflexions et vos expériences et les miennes, et pourquoi pas celles des autres aussi. Véronique, je vais vous demander de vous présenter un petit peu, et si c'est pas assez, je vous guiderai, je vous aiguillerai vers voilà, qui vous êtes, etc.
Merci Marie-Claude. Donc je suis Véro Dessertine, j'habite sur Anduze. Mm-hmm. Donc j'étais commerçante, j'ai un peu une carrière atypique, je suis secrétaire médicale d'abord. Au début. Après, j'ai été dans le commerce pendant 30 ans. J'ai fini donc à Anduze ma carrière obligatoirement par rapport à des raisons de santé. Mmh. Donc, j'étais obligée, je ne pouvais plus travailler. Et puis, je m'ennuyais, quoi. Enfin, j'avais besoin de faire quelque chose. Et puis, une cause ou une autre. Et je me suis lancée, je me suis remis au théâtre. Je suis rentrée dans la comédie. J'ai pris des cours, j'ai fait une formation de comédienne sur Montpellier. Au studio Cinécasting, d'ailleurs. Et puis, j'ai rencontré d'autres comédiennes, bien sûr. Et j'ai créé mon petit court-métrage, mon premier. J'ai fait un scénario. Et puis, on m'a dit, il faudrait que tu le mettes en scène parce que c'est quelque chose de fort. En fait, c'est sur le placement de ses parents en maison de retraite, tout simplement. Quelque chose qui est puissant, qui est déchirant. Enfin, pour moi. Hein, parce que, on les met dans des structures où c'est pas forcément adapté, déjà. L'accueil, parfois pas terrible. Le personnel, pas forcément à la hauteur. Il y a du personnel qui sont très, très, très bien. Et puis d'autres qui n'ont pas la vocation. Il faut une vocation. Il faut aimer. Il faut aimer les gens, déjà. Aimer les personnes âgées. C'est comme quand on travaille avec des enfants. Il faut aimer les enfants ou des animaux.
Ou avec les animaux, voilà, aussi.
Voilà, et les animaux qui sont aussi très maltraités aussi en ce moment. C'est un peu les souffres-douleurs de la vie actuelle.
D'accord. Et donc, ça vous est venu comme ça, c'est ce placement qui a quand même été bouleversant. Donc,
Oui, pour moi, ça a été vraiment une déchirure. J'ai beaucoup culpabilisé déjà. Et pourtant, je suis la dernière d'une fratrie de 10. Hein.
Oui.
Il y avait 7 garçons et 3 filles. Enfin, il reste 7 garçons et 2 filles, mais ça a été très compliqué. Je suis la dernière. Et on a tous vécu un peu la même chose, avec des sentiments différents, mais on est tous... On n'avait pas envie de les placer, mais à l'époque, on était tous en activité professionnelle. Et à partir du moment où il y en a un qui perd un peu, ma maman souffrait de démence, la maladie d'Alzheimer ou d'autres dérivés, mais enfin, c'est pareil.
C'est sûr que dans le diagnostic, c'est un peu vague, c'est vaste.
Et du coup, on n'avait pas d'autre choix que de la placer. Enfin,
D'accord. Parce qu'à ce moment-là, elle était veuve
Il y avait mon papa. Oui. Elle vivait avec mon papa, mais lui était parkinsonien. Toutes ses facultés cognitives, lui, c'est pour ça qu'on sait des choses qui s'est passé dans cette maison de retraite, parce que lui, il avait toute sa tête et voilà.
Donc, oui. Alors ça, c'est vrai que la maladie... Autant, effectivement, on peut penser que ce qui est la démence ou ce qui est la maladie de... toutes ces maladies, ces pathologies mentales, de détérioration, c'est... il y a quand même une perte de conscience. C'est un peu douloureux au début pour voir l'évolution, pour avoir connu l'évolution de certaines personnes. Mais après, peu à peu, la personne, elle perd beaucoup le contact avec la réalité. Oui. Alors que Parkinson, c'est le contraire. Votre corps ne vous aide plus.
Oui, c'est ça. Voilà.
C'est ça. Et en même temps, votre tête, elle fonctionne hyper bien.
Voilà, il a été, lui, jusqu'à la fin, il avait sa tête, quoi. Jusqu'à la fin.
D'accord.
Tandis que maman, non, non. Et puis, par contre, dans des moments de stress, on pouvait lui retrouver des moments de lucidité dans des gros stress. Et d'ailleurs, quand on l'a mise en maison de retraite, elle disait « ramenez-moi à la maison » parce qu'elle savait que ce n'était pas là sa maison. Et donc, c'est des moments très difficiles, pour, d'une part comme de l'autre, hein, aussi bien pour le malade que pour les aidants ou la famille.
Est-ce que vous avez été un peu accompagnée, justement, quand on parle d'aidants? Est-ce que vous avez été un peu
Non, pas vraiment. On s'est soutenus entre nous, entre frères et sœurs. Avec nos conjoints aussi. Enfin, moi, mon mari, il a été d'une grande aide aussi. Mais non, et puis les amis, mais on n'a pas eu d'aide. Je n'ai pas demandé d'aide extérieure, vraiment.
Oui, et puis donc, c'est en train de se mettre en place actuellement, justement. Bon, et moi, ça me fait plaisir quand même, parce qu'il y avait une solitude de la part des gens. Vraiment, c'est terrible, quoi. Parce qu'on ne sait plus, on se culpabilise, on ne sait pas comment faire.
C'est ça.
Voilà, et on est en train de prendre conscience, effectivement, que les aidants, ils ne sont pas aidants que pour la personne, ils sont aidants pour la société, quoi.
Oui.
Sinon, voilà.
Ouais, hein, si on n'y est pas.
Exactement. Même en EHPAD, souvent, heureusement qu'il y a quand même la famille qui est avec, etc.
Oui, bah,
même
parfois.
Si ça peut déranger.
Oui.
Par moments, beaucoup, que le regard extérieur peut déranger. Mais en même temps, voilà, on va en parler aussi de ça. Donc, c'est super que vous ayez eu cette idée, hein, quand même.
Oui, ben voilà. Donc, j'espère qu'il va toucher beaucoup de monde. Et puis moi, ce que je souhaite, c'est qu'il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier nos aînés, il ne faut pas oublier nos parents, il ne faut pas oublier toutes ces personnes qui sont en détresse. En détresse parce qu'elles sont faibles. Donc, il y a des gens qui abusent, aussi bien la famille que l'extérieur. Donc, il faut être là, il faut être présent. Il faut être présent jusqu'au bout.
D'accord. Et donc, on peut parler peut-être un petit peu justement de ce court-métrage, parce que même s'il est court, il est intense.
Oui.
Et ce que je disais hors antenne à notre invité, c'est que vraiment, des fois, on se dit que heureusement qu'il est aussi court, parce qu'il y a une intensité dans tout, hein, dans la situation, qui est vraiment très forte et que ça peut réveiller effectivement. D'ailleurs, vous nous expliquerez tout à l'heure aussi ce que vous avez constaté, ce que vous me racontiez tout à l'heure. Donc, vous pouvez dire le titre, par exemple, déjà?
Alors, le court-métrage, c'est « Ne m'oublie pas ». Il dure à peu près 4 minutes 30. C'est un court-métrage, donc j'ai fait le scénario parce que j'avais besoin de poser des mots, de dire ce que j'avais ressenti, voilà. Et quand je l'ai écrit, mais après, il me fallait... je savais déjà les comédiens que j'allais prendre, parce que j'ai une confiance totale aux comédiens que j'ai pris, que je citerai aussi. Et puis, il me fallait une équipe technique. Et j'ai rencontré une équipe jeune de l'université Paul Valéry à Montpellier, qui sont en licence cinéma. Donc, la réalisatrice Marie-Lou Chevalet, qui a mené le scénario tout à fait du début à la fin. On s'est entouré donc avec son équipe, avec Agnès, Amandine, Anna, Manon et Arturo, le seul garçon de l'équipe. Ils m'ont mené ça très bien. Et la musique, j'ai pris un étudiant du conservatoire de Montpellier. Donc la musique est intense aussi, au bon moment, aux bons endroits. Et moi, je veux remercier ces jeunes parce que, comme je disais tout à l'heure, au moment du clap, quand on a fait le premier essai, en fait, on n'avait plus le coupé. Les jeunes étaient tellement dedans, dans le court-métrage déjà. On attendait le coupé, il ne venait pas. Et à ce moment-là, les comédiens, on se regarde et on se dit, on peut couper là. Et quand on se retourne, on voit ces jeunes qui ont 20 ans, avec des larmes aux yeux. On s'est dit, oui. Enfin, on est contents parce que la jeunesse est quand même là et on a de l'espoir, quoi. On a de l'espoir que ça change. Et en effet, il y en a qui nous ont dit, on est en train de le vivre avec nos grands-parents. Donc moi, je tiens vraiment à les féliciter et je pense à eux bien fort aujourd'hui parce qu'en plus, ils sont en train de passer des partiels.
On les salue et on leur souhaite vraiment bon courage et ça va aller.
Voilà. Et après, les comédiennes, donc je me suis entourée de Coro Timi, que vous connaissez, Coro Timi Dabir Poissonnet, qui est une comédienne où on s'est connus en formation. Et ça a été un peu un coup de foudre amical. C'est passé très vite et un coup de foudre professionnel. Très sympa, elle m'a de suite aidée parce que moi, j'étais novice. là-dedans. Et elle m'a tout de suite aidée, elle m'a apportée, elle m'a menée, quoi, fait un peu. Avec Sonia Chavez aussi, pareil. Elle est habituée, à la scène, elle fait des one-man shows. Et c'est quelqu'un de très fort aussi, très engagé, qui a été dans sa vie aussi éducatrice. Donc ça, c'est des causes aussi qui la touchent, aussi sur les handicapés. C'est quelqu'un de très, très, très humain, avec beaucoup d'empathie. Et puis, il y a Marie Zamar, qui, elle, est une comédienne. Elle fait les festivals d'Avignon. Elle est surtout sur les planches, qui joue le rôle de ma maman, d'Hélène. Elle est très, très intense. Très, elle aime ça, quoi. Enfin, voilà, c'est, je me suis bien entourée. Puis, j'avais pris une petite jeune avec moi, une fille d'une amie, Justine, elle, qui n'est pas comédienne, mais qui était en phobie scolaire à ce moment-là. Donc, j'avais envie de lui faire... connaître un peu, de la sortir de là, de l'aider tout simplement.
Oui, lui montrer qu'il n'y a pas que l'école.
Voilà, qu'il n'y a pas que l'école. Et puis ben, que c'est, voilà, qu'il y a des jeunes qui s'entendent bien, que le groupe de l'équipe technique était super. Donc elle a bien aimé, elle a bien apprécié aussi. Voilà, donc j'étais très, très, très bien entourée. J'étais.
Ouais. D'accord, mais il a fallu quand même le penser, le souhaiter, l'organiser, s'ouvrir aux rencontres, se renseigner. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça quand même.
Oui, oui. Après, j'ai travaillé beaucoup avec mes souvenirs du placement. Pourtant, il y a déjà 16 ans, hein, le placement. J'ai vécu avec ça. Après, j'ai eu de l'aide par les comédiens qui me donnaient tous un petit coup de main pour avoir un peu d'avis, un peu de... et puis après, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis de se replonger dedans, comme je disais, j'ai voulu jouer mon propre rôle. Dans le court-métrage, je joue mon propre rôle. Mais on croirait que c'est facile, mais finalement, non. Parce que,
sûrement, voilà. Sûrement que c'est pas facile.
Non, c'est pas simple.
Quand on est très concerné.
Oui, c'est pas simple, parce que du coup, on fait remonter toutes les émotions. Et on n'ose pas laisser trop aller les émotions, parce qu'on se dit, on va pas remonter. Sur... Donc, c'était... Même là, rien que d'en parler, ça, voilà. Revis.
C'est sûr, et ça se ressent hein, quand on regarde la vidéo. Là, oui, cette émotion. Et en même temps, chapeau les autres comédiennes, parce que, bon, Corotimi en directrice un peu...
Hautaine, c'est ce que je voulais, alors que ce n'est pas du tout son
un
style.
Un peu autoritaire.
Voilà, alors que ce n'est pas du tout son style, elle est plus dans le comique, à toujours vouloir nous faire rire. Sonia Chavez, c'est pareil, elle est un peu dans le comique, elle est toujours en train de faire un petit peu, comme on l'appelle, notre clown.
Ah oui, elles étaient poignantes.
Voilà, elles étaient poignantes. Donc c'est et puis Maryse qui elle joue quelqu'un qui je la voulais paumée comme quelqu'un qui a Alzheimer, mais en même temps je voulais qu'elle soit aussi un peu lucide pour me dire non ramène-moi à la maison. Enfin je veux pas tout dévoiler. Il faut que les gens puissent voir.
Oui, c'est ça. Et c'est en même temps, je pense que c'est quelque chose qui est relativement. Bon, ça c'est votre expérience à vous, mais je pense que c'est relativement courant que ce genre de pathologie-là, qui font qu'à la fois la personne n'y est plus, mais en même temps, elle y est quand même encore, et qu'elle peut prendre conscience, effectivement, c'est quelque chose... On ne peut pas lui demander sa coopération, sa collaboration. Puisque là, vous faites allusion à un moment au fait que vous en avez déjà parlé, etc. Mais là, on peut penser que la mémoire fait défaut, et qu'en même temps, de toute façon, à un moment, le fait de sentir qu'on n'est plus chez soi, c'est aussi quelque chose, quoi.
Oui, c'est ça. Puis on a l'impression de ne de plus être là, en fait, pour eux, quoi. Enfin, on a l'impression de les abandonner, voilà, les abandonner. Et c'est ce qui est difficile à gérer. Enfin, gérer émotionnellement, c'est très compliqué, quoi.
Et la position autoritaire donc, de la directrice vis-à-vis de son personnel, ça a été perçu... C'était un peu rigolo entre vous après, ou c'était comment?
Alors, alors on la voulait, parce que Coro, si on ne la cadre pas un peu, elle part vite dans la... Voilà, elle nous amène vite à faire des blagues. Et non, elle a tenu très bien son... Elle s'est habillée en plus avec une petite veste pour bien montrer qu'elle est stricte. Les cheveux, vous avez vu comment elle est, alors que d'habitude, voilà. Mais je pense qu'il faut découvrir le court-métrage.
Oui,
c'est magnifique.
Il
est beau. On est assez contents, oui, dans l'ensemble, les comédiens, même l'équipe. On a des bons retours. Mais il est sur YouTube que depuis hier. C'est tout frais.
Voilà. Ah, que depuis hier.
Il est sur YouTube.
D'accord, mais on rappellera tout à la fin. Après les acteurs, après les acteurs. On rappellera tout que, voilà, pour les personnes qui seront intéressées, quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale, là, parce que l'émotion, déjà, est rentrée dans ce studio, je dois dire. Pas que l'émotion de Véro, la mienne aussi, bon, parce que la vie aussi a fait que, voilà, j'étais quand même confrontée à beaucoup de choses douloureuses et compliquées. Et puis, je pense que ceux qui nous écoutent, toutes c'est pareil, la preuve même, les jeunes étudiants et tout qui ont fait preuve. Et donc, je propose qu'on écoute le morceau que vous avez choisi. Véronique, je vous charge de le présenter, donc dire qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce morceau musical.
Alors, c'est une chanson de Céline Dion,
oui,
par rapport à sa maman.
Mmh. Ah,
voilà,
d'accord.
Voilà, donc que les rôles sont inversés. Mmh. Voilà, donc je,
voilà,
parce que, en fait, c'est un peu ça. En fait, au début, bah, c'est les parents qui s'occupent de nous, quoi. Mais à un moment, il faut que ça change.
Il y a une inversion de
voilà.
rôle, ouais.
Et
ouais.
La chanson de Céline Dion représente très bien ça, quoi.
Elle s'appelle
Celle qui m'a tout appris.
Celle qui m'a tout appris,
voilà. Celle
voilà.
qui m'a tout appris.
Et le point commun avec Céline Dion, c'est que vous êtes la dernière
d'une grande fratrie. Voilà.
Et elle était la 13e même.
Voilà, voilà. C'est ça.
Vous avez ce point commun-là, et donc cet hommage aux mamans, là, vous savez voilà, de quoi vous parlez voilà. toutes les deux.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Avec des
à
parents
tout à l'heure, âgés. À tout à l'heure, chers auditeurs.
Je me demande à quoi elle pense quand elle s'enferme dans ses silences. Si dans mes yeux il voit ses yeux, si son passé est plus heureux. Se souvient-elle des jours fragiles, de tous ses voyages immobiles? Combien de rêves, combien de doutes et combien de pièges sur sa route? Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas, sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Je la regarde marcher de dos, le rose de l'été sur sa peau. Je sais qu'elle suit dans la lumière le chemin tracé par mon père. Elle me croit loin, je suis si près. Le passé me hante, les regrets. Un avion, un hôtel, un adieu sur un quai. Souvent je pense à elle pour me trouver. Et même si je me perds la nuit, les rôles sont inversés aujourd'hui. C'est le jeu de la vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas, sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Lancée vers l'océan, dans le reflet du monde, emportée par le vent, c'est mon enfance qui tombe. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Et même si je me perds là-bas, sous un soleil bien trop grand pour moi, c'est le jeu de ma vie. Je veille sur celle qui m'a tout appris. Celle qui m'a tout appris.
Oui, eh bien, bonjour à tous. Nous nous retrouvons toujours dans ces studios de Radio FM+, qui nous accueillent comme chaque semaine. Et je suis toujours en compagnie de Véro Dessertine, donc qui est venu, qui est donc s'est reconverti en, en comédienne, je dirais. Il faut le faire hein, quand même, après une vie bien remplie par ailleurs. Et qui est venue nous présenter, nous parler du petit court-métrage qu'elle a fait. Je dis petit parce qu'il est petit par le temps, mais par contre, par la teneur, il est très intense. Hein, voilà. Et donc, nous avions pas mal discuté tout à l'heure et expliqué voilà, le pourquoi de ce court-métrage et l'importance qu'il peut avoir dans nos sociétés actuelles. Voilà, avec des pathologies, ben, qu'à un moment, on ne peut pas régler, on est obligé, pour de nombreuses raisons, de peut-être placer ses parents en structure qui sont censées protéger. On va reparler un petit peu de censé aussi. Et là, le cas de Véro, c'était que bon, pour ses parents, il y avait un double problématique. Hein. C'était, donc, vous nous rappelez, votre papa, c'était...
Alors, Parkinson, la maladie, oui, de Parkinson. Et ma maman, elle avait une démence associée à la maladie d'Alzheimer.
Voilà, d'accord. Donc, les deux, voilà, un couple qui, à un moment, ne pouvait plus se suffire.
Voilà, oui, parce que mon papa l'a aidé tant qu'il pouvait. Mais il, ouais, y a un moment, ouais, où c'était plus possible. Il réveillait mon frère, qui travaillait aussi à 2h du matin. Il fallait assister ma maman, donc c'est... Il y a un moment où on ne peut plus, quoi, même si ce n'est pas notre choix vraiment. Mais,
Oui, ce n'est pas forcément un choix.
Non.
Et en même temps, à un moment, quand la personne se met en danger, on met les autres en danger, c'est pas...
Oui, puis on s'use émotionnellement, oui, aussi, oui, physiquement, oui, émotionnellement. C'est compliqué. Fait, tout le monde, mon papa, il n'en pouvait plus non plus. Fait, c'est déjà qu'il était malade. Donc on a, voilà, on a pris cette décision qui est très difficile. Enfin... Donc après, les mettre dans des structures, oui, il faut bien choisir sa structure.
Oui, on n'a pas toujours tout à fait le choix non plus.
Mais on n'a pas tout à fait le choix. Et puis, il faut voir, quoi, parce qu'il y en a que ça porte très bien, très joli, très beau, des belles paroles. Mm-hmm. Puis finalement, c'est pas trop ce qu'on attend non plus. Quoi. Mm-hmm. On attend surtout de l'empathie, de la bienveillance, qu'ils soient à l'écoute. Mm-hmm. Et puis qu'on arrête de suite de les mettre avec des couches, parce que soi-disant, ils sont incontinents, alors qu'ils ne sont pas incontinents. Mm-hmm. Mais on ne leur laisse pas le temps de dire « j'ai envie de faire pipi », non. Voilà, quoi. Ils n'ont pas le temps. Alors, bien sûr, il manque du personnel, c'est certain. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est une vocation aussi, quoi. C'est une vocation.
Tout à fait.
Ouais.
Ils ont une vocation et c'est vrai que pour la mise en EHPAD, bon, qui est douloureuse, c'est aussi qu'à un moment, la personne, donc, elle se met en danger, elle met en danger les autres, et elle est de toute façon pas vraiment, on ne peut pas s'en occuper correctement. Voilà, et c'est vrai que souvent, s'il y a de l'empathie, ce que vous dites, l'empathie, la bienveillance, etc., le désir d'aide, le fait d'être extérieur, de ne pas être dans ce lien très, très affectif, très affecté aussi, parce que justement, ça peut permettre quelquefois des meilleurs soins, comme pour les soignants par exemple, je pense même aux infirmiers, tout ça, qui vont sûrement faire plus facilement, non seulement avec la technique, mais avec aussi la détermination professionnelle, qui vont peut-être plus facilement faire une piqûre intraveineuse ou des choses comme ça. Donc là aussi, c'est censé être dans des soins comme ça.
Oui, et puis les levées, tout ça, il y a des techniques que nous, on n'a pas forcément.
Tout à fait, absolument.
Surtout maintenant, ils ont les lèvres malades aussi. Mais je pense qu'il faut aussi qu'ils soient... Il ne faut pas trop les infantiliser non plus. Enfin, il faut les laisser à leur place de personnes âgées. Et puis les considérer. Enfin, moi, j'ai eu des expériences où je voyais que, par exemple, une aide-soignante, elle arrive comme ça. Même pas, elle lui dit « je vais vous faire ci, je vais vous faire ça ». C'est d'un coup, donc la personne, elle est là, elle est dans son fauteuil, perdue, parce que c'est brutal, c'est violent. Il suffirait seulement de dire « Attendez, je vais vous changer de place, je vais vous... » Non, c'est très, très violent. Et puis bon, puis après... moi, j'ai pas que des bons souvenirs des EHPAD. Une fois, je peux le raconter aussi, mais...
Oui, bien sûr, mais on est là pour ça, pour tout dire. Hein.
Et donc, une fois, elle a été malade dans la nuit, à 3h du matin, donc vomissement, enfin, tout. Voilà. Et mon frère, qui ne devait pas venir ce jour-là, parce qu'il travaillait sur Paris, il vient à 11h du matin. Elle était toujours dans ses excréments à 11h du matin, depuis 3h. Donc ça, pour moi, c'est inacceptable. Voilà. Même le matin, mais qu'est-ce qu'elle faisait à 11h du matin encore? Alors on vous répond, mais parce qu'elle est malade. D'accord. Ben oui, elle est malade, mais nettoyer, quoi. Enfin, elle avait là. Et alors, il disait, mais c'est pas depuis 3 heures du matin. Mais nous, on savait que depuis 3 heures du matin, parce que mon papa, à côté, il avait toute sa tête, lui. Donc, on savait très bien. C'est pas simple. Mais c'est pas simple. C'est des décisions difficiles à prendre. Mais bon, on se dit qu'on espère que ça va changer. Que déjà, ben, qu'il y aura plus de personnel dans ces structures. Parce qu'ils font pas un métier facile non plus.
Non. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a les deux. Il y a le manque de bienveillance et il y a aussi le manque de personnel. Mais quelquefois, quand on est bienveillant, on arrive à se débrouiller.
Oui, c'est ça, voilà. C'est ça.
D'ailleurs, ça me fait penser tout de suite au livre de comment il s'appelait, Castaneda Victor. Qui a fait ce livre qui s'appelle Les Fossoyeurs, qui a fait ce livre qui a dérangé énormément, je peux vous dire ça. Ça a dérangé énormément de monde, y compris jusqu'au ministère, etc. Et d'ailleurs, comme ça a été vraiment insuffisant, puisque quand même il s'était mis en posture vraiment de pouvoir témoigner, de pouvoir constater ces choses-là, ça a été tellement pas suffisant qu'il a réédité, parce que la première édition avait été épuisée. La rééditer en ajoutant 100 pages quand même.
Ah oui.
Et je suppose que ce n'est pas 100 pages d'amélioration pour constater l'amélioration de la situation. Donc effectivement, ça avait fait beaucoup bouger les lignes à l'époque. Maintenant, savoir après ce que ça va faire sur le long cours, on ne sait pas. Mais voilà, en tout cas, et c'est important aussi d'attirer l'attention des personnes là-dessus, quoi, sur ces problèmes-là. Quoi,
je ne sais pas s'ils sont vraiment conscients. En fait, c'est l'appât du gain. Quand vous voyez que la direction, ce qui les intéresse, d'ailleurs, c'est ce que je montre un peu dans le court-métrage, vite fait, mais ce qui les intéresse, vite, allez hop, à la suivante, parce que j'ai des rendez-vous, il faut remplir mon établissement. Et surtout au prix où les gens payent, quoi, c'est pas donné, c'est des sommes. Nous, à l'époque, on donnait 2000 euros par personne, donc ça fait 4000 euros pour un couple. Enfin, voilà, quoi, normalement, ils devraient être bien, bien soignés. Mais je pense qu'ils savent. Et puis surtout, quand vous y allez, surtout, avec l'expérience, surtout ne les prévenez pas. Ne prévenez pas la maison de retraite que vous allez venir. Parce que ce jour-là, quand vous prévenez, ils sont tout propres. Ils sont nickels. Et on dirait qu'ils vont en dimanche. Et quand vous prévenez pas, vous arrivez, ils sont... pas changé.
Voilà, vous trouvez des choses scandaleuses. Et alors, ce que vous dites là, c'est important, mais c'est aussi valable de la part des autorités. Je pense que notamment, ceux qui sont là pour inspecter, que ce soit des ministères, que ce soit peut-être la sécurité sociale ou que ce soit les agences de santé. C'est pareil. Le problème, c'est que souvent, ces gens-là, ils préviennent.
Et oui, c'est ça.
Donc, souvent, ils préviennent au moins 48 heures. Donc, dans l'établissement, on a 48 heures pour tout.
Tout va bien.
Et donc, on va rien percevoir. Tout le monde est bien, bien propre, bien mis. Il n'y a aucun...
Et puis, on met le personnel qu'il faut ce jour-là aussi.
Tout à fait. Donc, c'est sûr que... Et c'est vrai que c'est bien suggéré dans votre court-métrage. Là, les interactions et les injonctions de la directrice, c'est un moment... j'ai pas que ça à faire. Sous-entendu, c'est moi qui le dis. Mais c'est ce qu'on entend aussi. Oui. Et puis, j'ai d'autres rendez-vous. Voilà, donc, comme vous dites, sous-entendu, il faut que je remplisse mon établissement.
On se moque un peu de la personne. Prends-la et puis...
D'accord. Ouais. Alors, donc, justement, on a parlé un petit peu tout à l'heure des techniciens et tout. Et c'est vous qui avez fait le scénario? C'est vous qui avez conçu la chose?
C'est moi qui ai écrit le scénario. Après, tout ce qui est réalisation, donc c'est Marie-Lou Chevalet qui s'en est occupée avec son équipe. Ils ont fait leur storyboard. Enfin, ils ont fait ce qu'il fallait pour monter le petit film. Mais sinon, après, moi, je me suis débrouillée pour trouver donc, le jeune musicien aussi, du conservatoire. Et non, on a... Mais le scénario, c'est tout moi. Mais là, je pense que je vais faire une suite. Ça sera N'oublie pas deux par rapport à... Je voudrais parler un peu de maltraitance psychologique et physique. Et surtout psychologique, parce qu'il n'y a pas que physique. Par des mots, par des gestes, par les vols. Il y a des vols. Il y a des choses qui disparaissent, des personnes. Donc, j'aimerais continuer là-dessus.
Oui, ça me semble important à partir du moment où je pense que c'est peut-être le premier jet qui a été le plus difficile.
Oui. Et puis, c'est avec la conversation que j'ai eue l'autre fois avec vous. Du coup, ça m'a dit, non, mais il faut que tu ailles plus loin parce qu'on ne peut pas tout dire en 4 minutes, de toute façon.
Oui.
Il sera peut-être un peu plus long, mais pas plus. Il faut qu'il soit quand même poignant et puis qu'il touche. Mais moi, je veux que les gens prennent conscience que ne pas nous oublier nos personnes âgées. Et puis, même si on les place, de surveiller, d'être vigilant. Voilà. Et quand il vous dit quelque chose, même s'il est atteint d'Alzheimer, il faut quand même analyser, il y a toujours quelque chose, peut-être un peu de vrai. Parce qu'ils ont des moments en gros stress. Moi, je ne suis pas comme les médecins qui disent non, ils ne sont plus là, ils ne sont plus là. Non, moi, je dis qu'en cas de gros stress, ils sont là.
Et d'ailleurs, actuellement, apparemment, il y a des techniques, notamment la musique. C'est vrai que la musicothérapie, moi, je connais aussi, par exemple, professionnellement, par rapport aux autistes aussi et tout ça, aux gens vraiment, aux pathologies mentales. Apparemment, il y a des... Notamment, il y avait une vidéo qui était passée, je ne sais pas si vous l'aviez vue. C'était une grande danseuse étoile à qui on faisait entendre le morceau qu'elle interprétait le mieux.
Oui.
Et c'était... Et alors que cette femme, elle n'avait plus du tout sa conscience, quoi. Et là, elle revivait, mais c'était extraordinaire.
Et puis elle se remettait un peu dans des
tenues. Voilà, elle mettait des postures, etc.
Des postures de danse.
Et je pense qu'effectivement, c'est très intéressant, de cette recherche-là. Donc, il y a des choses à faire. Et je pense qu'effectivement, les témoignages, comme le vôtre, là, qui est vraiment un témoignage très, très, très actuel, très vécu, ça peut aider même les chercheurs, même les gens qui veulent avancer un peu dans aider ces personnes-là. Ça peut aider vraiment tout le monde, quoi. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc là, vous avez dit que c'était sorti donc hier sur YouTube.
Sur YouTube, oui.
Et qu'est-ce que vous comptez en faire, vous?
Alors moi, peut-être que j'aimerais bien le présenter. Alors, peut-être pas dans les EHPAD. Quoique j'aimerais bien aussi,
pour
les familles.
Ouais, moi, je pense que, par contre, je vous coupe. Peut-être la suite sera plus compliquée.
Oui.
Mais je pense que celui-là parce que c'est quand même un témoignage. Alors, les choses sont dites en filigrane. Si on ne veut pas les voir, on ne les voit pas.
Oui,
par exemple, l'attitude de la directrice, ben, ça peut être dire « Ah oui, vous voyez, nous, on a du boulot, nous, les directeurs.
»
Je pense que celui-là, vous pourriez le faire.
Voilà. Et puis, peut-être en première aussi, dans certains lieux. De le mettre en première ou à la fin. On va voir, mais de toute façon, il ne va pas rester dans un tiroir.
Bien sûr.
Pas,
mais moi, je vous encourage à aller voir les EHPAD, passer par la bande peut-être. Puis il y a des EHPAD qui ont envie aussi d'avancer aussi. On n'est pas tout.
Tout à fait. Oui. C'est comme le personnel, c'est pas tout.
Ah non, mais moi, je peux vous dire, je peux témoigner qu'il y a des gens. Bon, par ailleurs, je milite dans une association et je peux vous dire qu'il y a des soignants et il y en a même qui perdent leur place parce qu'ils dénoncent.
Et oui, c'est ça.
Parce
c'est
qu'ils
ne
supportent pas.
Ouais, ou qu'ils font des burn-out parce que.
Oui, tout à fait.
Ouais, et ça les rend malades aussi.
Ça les rend malades aussi. Donc, je pense que cette première version, elle est suffisamment soft, à mon avis. Même si, quand on veut tout voir, on le voit. Et moi, personnellement, j'ai bien vu tout. Mais, je crois, ou presque tout, en tout cas. Je pense qu'elle peut, parce qu'elle met aussi beaucoup l'accent sur l'émotion, sur la difficulté de la personne qui n'accepte pas. Voilà, parce que justement, elle a plus toute sa tête, elle oublie et en même temps, elle a suffisamment sa conscience qu'elle va changer, qu'elle ne sera plus chez elle.
Ça,
et elle le dit
ça.
Aussi. Donc, je veux dire, ça peut être quand même quelque chose qui à mon avis, est jouable après.
Oui.
Après, le reste, ce sera à voir, à diffuser dans d'autres instances. Et,
oui. Puis après, oui, c'est ça.
Mais en fait, vous avez vos équipes, quoi. Puis vous avez... Mais dites-donc, comment vous avez trouvé les gens, là,
à l'équipe de jeunes, là.
Ouais.
Alors, en fait, je ne trouvais personne. Sinon, c'est très, très cher. Avec des professionnels, c'est très cher. Et là, les étudiants, j'avais passé une petite annonce. Et puis, je suis rentrée en contact avec Marie-Lou. Et c'est très bien passé. Elle me dit, écoute, je prends la réalisation, je vais trouver mon équipe. Alors, je dis, je t'occupe de tout. Et en effet, elle a vite monté son équipe. Mais vraiment, ils sont très, très bien. Là, samedi, je tourne encore pour eux, là. Un projet qu'ils ont pour eux. Et j'ai tourné encore avec eux deux fois. Là, j'ai tourné aussi avec Sonia Chavez sur aussi une histoire grave, en fait, sur l'homophobie, le genre. Et on en reparlera aussi, mais c'est un sujet aussi qui me touche parce que c'est pareil, il y a encore beaucoup d'homophobes, des gens qui n'acceptent pas. Donc, voilà. Ouais, ils sont bien. C'est franchement des jeunes qui sont très bien.
Vous avez bien mené votre barque, quoi. Hein. Voilà. Donc, on peut reparler. Alors, vous pouvez nous reciter un peu tous les gens que vous avez cités, tous ceux que vous voulez recommander. On redira bien le titre sur lequel, pour aller sur YouTube pour bien le trouver, mais nous redéfinir un peu l'équipe donc, dont vous avez parlé. Là, vous parlez de Marie-Lou.
La réalisation est faite par Marie-Lou Chevalet.
D'accord.
Avec toute son équipe, donc Agnès, Amandine, Anna, Manon et Arturo, le seul garçon de l'équipe. Il nous en fallait un quand même. Et donc, qui sont à l'université Paul Valéry, que je soutiens aujourd'hui parce qu'ils sont encore, comme je disais tout à l'heure, en pleine partielle.
Oui, on pense.
Voilà. Et puis, donc, ils ont un avenir brillant, je pense, parce qu'ils sont très, malgré leur jeunesse, ils sont très, très, très empathique, très, très bienveillant. Donc, franchement, je les adore. On ne se connaît pas depuis longtemps, mais voilà, ça passe bien, ils sont super. Et après, les comédiens, entre Corotimi d'Abir Poissonnet, qui est une comédienne talentueuse aussi, et qui est dans le comique, mais qui est très belle dans le grave. Quoi. Enfin, voilà. Et Sonia Chavez aussi, pareil, qui est... Je pense que vous la découvrirez dans mon prochain court-métrage sur le genre, là, qui dévoile un peu sa personnalité, qui est magnifique aussi.
Oui, et puis ?
Et puis Marie Zamar, alors elle, comédienne de théâtre, surtout, qui joue super bien. Voilà. Donc
D'accord. Et puis la petite
jeune. Et la petite, voilà, qui, j'espère, va se sortir de sa phobie scolaire. Et puis, je lui souhaite plein de courage aussi, puis un bel avenir.
D'accord. Et puis, évidemment, Véro Dessertine, que j'ai reçu avec un très, très grand plaisir aujourd'hui, qui nous fait le cadeau de ce court-métrage qui s'appelle donc « Ne m'oublie pas ». Voilà, n'oublie pas qu'il sera. On peut le trouver sur YouTube depuis hier.
Soir, ouais.
Donc si ça, je vous recommande non seulement de le visionner, mais de le recommander à d'autres personnes ou d'envoyer le lien à d'autres personnes, parce que c'est un sujet vraiment qui nous intéresse tous et qui est vraiment, vraiment aussi d'actualité. Voilà, donc je vous remercie, chers auditeurs. Merci encore Véro d'être venu, et puis on se reverra sûrement pour la suite.
Je pense. Ouais. Merci Marie-Claude.
Pour la suite. Merci à Tom. Qui a assuré la régie aujourd'hui. Voilà, merci Tom. Et puis, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine sur ces ondes de Radio FM+, qui nous accueillent comme chaque semaine pour les échos de la solidarité internationale et nationale, bien sûr, aussi. Au revoir.